Le 15 octobre,
dans toute la ville de Florac,
c'est la fête paysanne.
Marché de producteurs, conférences, rencontres, partage.
Cette année, on parle ensemble de l'autonomie paysanne.
Avec à 11h et 13h30, des plateaux Radio Bartas en direct de L'Encrier.
Bienvenue à toutes et tous dans toute la ville de Florac à la fête paysanne. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, si vous nous rejoignez, bienvenue à L'Encrier, si vous nous rejoignez, on est content, c'est un lieu qui vit et c'est fait pour ça. On parle d'autonomie alimentaire et paysanne aujourd'hui, et la fête bat son plein, on était sur la place du marché là, il y a quelques minutes, vraiment venez, si vous avez rien d'autre à faire, et même si vous avez autre chose à faire, venez. Nous remercions vivement L'Encrier pour son accueil, Marie-Hélène, merci beaucoup. François, bonjour.
Bonjour Ben.
François, merci d'être avec moi pour co-animer cette émission.
Ça s'est fait sur le tard, mais ça va le faire.
C'était rigolo hier, on a fait une soirée, tu te dis ouais, bon, du coup je vais le faire.
Hein ?
Et en plus, on va parler de sujets que tu connais et que tu as connus, et notamment le sujet qui ont été faits quand tu bossais à la LODR il y a 5 ans.
Oui, à peu près, oui.
À peu près, plus ou moins. Ouais. En tout cas, on va bien se marrer. Tiens, et si je te montais le micro 5, c'est mieux. Hein. Excuse-moi, je fais les deux en même temps.
Voilà, est-ce que tu m'entends bien là ?
Ouais, c'est
oui,
mieux,
c'est
hein.
Un peu mieux.
Ouais, ça marche
même
mieux,
pour
hein.
Tout le monde.
Ah, animateur et technicien, je peux pas faire les deux, je suis un vrai mec. Hein. En tout cas, ce matin, c'était un échange entre assos. Et cet après-midi, on rentre dans le concret, quoi qu'on y était déjà pas mal ce matin. Mais allons-y encore avec plus de projets, des avancées qui permettent de tendre vers l'autonomie paysanne. Et autour de cette table, nous sommes avec Siméon, bonjour.
Bonjour Ben.
Siméon, tu es éleveur et castanéiculteur.
C'est ça.
Et tu es aussi porte-parole de la Confédération Paysanne.
Aussi, à mes heures perdues.
Alors, on a reçu Julien, et Julien tenait à dire, je suis co-porte-parole. Hein. Donc Siméon...
Oui, j'espère bien qu'il ne m'enlève pas mon rôle.
Ah non, il t'enlève pas. Et avec toi, on va parler d'autonomie alimentaire des troupeaux, on va parler aussi de l'abattoir mobile, ça va être super intéressant. Muriel, bonjour Muriel.
Et bonjour.
Muriel, Pascal, toi tu es apicultrice... Est-ce que je le dis, ancienne porte-parole de la conf?
Non, tu le dis pas.
On le dit pas, bah, c'est fini. Ce temps est révolu. Et nous sommes avec Hugo Percier, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Hugo, toi tu es animateur, formateur à l'atelier paysan.
C'est ça.
Et tu vas donner ici des ateliers à demain matin, dimanche, je pense, ici à L'Encrier. Et en plus de ça, à 15h, tu feras une conférence sur un super bouquin.
Bah oui.
On en parle avec toi tout à l'heure. Alors, la dernière question du plateau de tout à l'heure, c'était comment s'affranchir de l'agro-industrie. On y va cash. Qui veut commencer? Comment on fait? Ah bah, autant mettre les pieds dans le plat direct. Hein. Je vous le dis, on est en plateau, on est en direct, c'est la fête. Hein. Muriel.
Ouais.
Ou Siméon. Allez, Siméon.
Allez, je vais. Muriel complétera. Comment on s'en affranchit? On s'en affranchit à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle de nos fermes, en essayant de remettre au goût du jour, de réinventer des savoir-faire paysans qui dépendent pas de gros systèmes industriels, qui dépendent pas de gros capitaux. Et ça se joue à plein d'échelles. Donc, ce matin, on a vu au niveau de la commercialisation, au niveau de la comptabilité, enfin à différents niveaux. C'est des niveaux qui comptent, et les niveaux aussi importants, c'est qu'est-ce que je fais dans ma ferme ou collectivement avec les fermes d'à côté pour réussir à faire mon boulot sans dépendre de grosses industries.
C'est ça, c'est arrêter de vouloir manger le voisin et faire avec le voisin.
Ah ouais, il y a de la place pour tout le monde, donc vaut mieux bosser ensemble plutôt que bosser contre les autres.
Muriel ?
Ben oui, ben, t'as bien résumé l'histoire, mais moi je mettrais beaucoup l'accent sur la dimension collective de l'autonomie. L'autonomie c'est tout sauf l'autarcie, c'est surtout de savoir travailler en bonne intelligence avec les autres, que ce soit des voisins proches ou moins proches. Et c'est toujours bien plus enrichissant que de rester seul sur sa ferme, parce que c'est beaucoup plus difficile d'être autonome quand on est seul sur sa ferme.
Alors on va parler de plein de choses, j'espère qu'on aura assez le temps, et Hugo, j'espère que tu seras à l'heure à ta conférence au Théâtre de Verdure, mais est-ce qu'on, dans une généralité, est-ce que la Lozère tend vers l'autonomie paysanne?
Et il y a de tout, il y a tous les systèmes en Lozère. Il y a des filières longues, donc qui sont peu autonomes. Beaucoup de paysans sont dans des filières longues. Et il y a des gens qui ont développé tout ce qui est circuit court et qui, eux, ont déjà regagné beaucoup d'autonomie. Et moi, je dis, il y a une autonomie qui est particulièrement importante chez nous, c'est de maîtriser sa facture, de faire sa facture. Savoir que dans des filières longues, le paysan, il maîtrise pas sa facture. C'est la coopérative, c'est pas lui qui maîtrise le prix de ses produits et qui fait sa facture. C'est d'autres personnes qui la lui font à sa place. Et ça, c'est vrai que dans les filières courtes, on a gardé ce gros pouvoir de facturer nous-mêmes nos produits. Pour moi, c'est hyper important. C'est pas la seule chose, mais c'est très important.
Et c'est vrai qu'en complément, la particularité aussi de notre territoire, c'est qu'il y a beaucoup de collectifs qui fonctionnent, collectifs de travail, et des outils qui sont partagés. Et effectivement, ça met le pendant par rapport à cette notion d'autonomie ou d'autarcie. Le fait d'être à plusieurs, justement, de s'entraider, d'investir dans des outils en commun, ça nous permet de ne pas être isolé et de pouvoir aussi sortir des filières longues dans lesquelles effectivement on a aucune on a très très peu de pouvoir en fait. Donc la dimension collective sur notre territoire, elle est super importante. Elle nous permet d'avancer et de construire des outils qui vont répondre à des besoins qui sont très spécifiques de notre territoire.
Hugo, c'est quoi simplement la première question, l'atelier paysan?
Alors nous, on est une coopérative nationale, donc déjà je le dis, j'ai pas grand chose à raconter sur la Lozère, à part que j'adore venir ici. On est à l'idée, hein. L'idée, nous, c'est tout jeune, hein, ça existe depuis une quinzaine d'années, on traite d'autonomie technique, donc on est sur la partie matérielle, c'est-à-dire outils, machines, bâtiments, et l'idée c'est de, en effet, pour à l'échelle de la ferme, essayer de se rapprocher d'une démarche d'autonomie, et ben essayer de s'émanciper autour de la question de l'outil et s'émanciper collectivement. Donc le cœur de l'atelier paysan, c'est d'accompagner les paysans et les paysannes à concevoir eux-mêmes leur matériel. Voilà, on n'est pas du tout un bureau d'études au service des paysans, c'est une coopérative paysanne qui conçoit ses propres outils.
L'idée, c'est de donner des clés, en fait, et notamment dans ton bouquin « Reprendre la terre aux machines », c'est de donner des tips comme ça aux paysans.
Ah bah c'est plus que des tips. En fait, les machines, les bâtiments, les outils, c'est un gros poste sur la ferme. C'est un gros levier pour aller vers l'autonomie ou un gros levier inversement pour aller vers l'endettement, pour aller vers la dépendance aux techniciens, pour aller à la dépendance avec un matériel qui est de plus en plus numérique, robotisé, irréparable comme ta bagnole que tu peux plus amener à ton garagiste quoi. Donc c'est plus qu'une astuce. Hein. C'est un recours pour aller vers de l'autonomie. Après, ce qu'on raconte dans Reprendre la terre aux machines, ça va au-delà. Dans Reprendre la terre aux machines, on essaye de situer ce geste-là d'autonomie technique dans un projet politique bien plus large, qui est celui que tu as nommé dès ta première phrase, qui est de se débarrasser de l'agro-industrie et de l'alimentation qu'elle produit. Parce qu'on pense qu'il est urgent, en fait, de s'y attaquer et qu'elle cause des ravages. Voilà, et donc on vient questionner, est-ce que par nos alternatives, nous sommes en capacité de se débarrasser de cette industrie? C'est une vaste question.
Et la réponse?
À la réponse, nous on l'apporte, la thèse, c'est que non. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser? Est-ce qu'on y arrive? En fait, on n'y arrive pas. On y arrive à l'échelle individuelle, ça a été dit là par mes camarades autour de la table, et c'est formidable. L'agriculture paysanne a fait la preuve en 50 ans qu'elle était incapable de tout produire mieux que l'industrie, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. On sait faire de la betterave sucrière beaucoup mieux que l'industrie, c'est-à-dire sans pesticides, un truc qui rend pas malade, un truc qui respecte la terre, qui respecte les travailleurs et les travailleuses, etc. Seulement, il faut avoir la lucidité de voir que depuis une bonne trentaine d'années, on plafonne à moins de 10% de l'alimentation qui est produite en France ou de l'alimentation qui est consommée. Et donc, pour être très froid, on peut dire que non, nous ne sommes pas en train de grand remplacer l'industrie alimentaire. Dit autrement, en ce moment, il y a moins de 400 000 exploitants et exploitantes en France. Et s'il n'y avait pas les pesticides et les machines robotisées, on serait incapable de nourrir l'ensemble de la population avec moins de 400 000 personnes. Mmh. Et donc on a un gros problème, c'est-à-dire on ne parvient pas à trouver le projet politique pour l'instant, porté par suffisamment de gens, en tout cas, pour dépasser ce plafond de verre-là et aller vers l'installation de peut-être plusieurs millions de personnes qui travaillent la terre, où là, on arriverait en effet à atteindre une autonomie paysanne et alimentaire.
L'héritage des années 50-60, Muriel.
Tu dis, on n'a pas... Actuellement, le projet politique, c'est vrai, mais on a des idées quand même. C'est pour ça que l'année dernière, on avait fait un peu notre thématique sur la sécurité sociale de l'alimentation. Mais bon, voilà, on a quand même des raisons de rester optimiste et de travailler à le rester et à essayer de faire bouger les choses. Mais c'est vaste et c'est ambitieux, c'est sûr. Mais bon, voilà, sinon, on ne serait pas là aujourd'hui en train d'expliquer qu'on a des super solutions pour continuer à faire de l'agriculture. On serait tous en train de mettre la tête sous l'eau, quoi.
Mmh. Eh ben, puisque tu as la parole, je propose que tu la gardes. Parce que quand j'ai vu CETA, alors j'ai vraiment eu peur. J'ai pensé direct à des accords de libre-échange, tout ça. Je me suis dit, mais Muriel est parti complètement ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé, capitalisme et tout. Alors, tu vas nous rassurer. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la CETA?
CETA, APIDOC. CETA, c'est Centre d'études techniques agricoles. Ça existe dans toutes les filières agricoles. Et APIDOC, c'est parce qu'on est un groupe d'apiculteurs de la région Occitanie qui travaillons ensemble pour faire de la sélection génétique. Alors là, encore des gros mots, mais surtout pour travailler avec une abeille adaptée à notre territoire. C'est-à-dire qu'actuellement, les apiculteurs, la plupart des apiculteurs, et j'en ai fait partie quand je me suis installée, sommes un peu dépendants d'achats de rennes élevées par des sélectionneurs. Alors des rennes qui peuvent servir à faire directement de la reproduction ou carrément des rennes pour faire de la production, ce qui est encore pire entre guillemets. Et on était dépendant en termes de génétique, on n'était absolument pas autonome par rapport à ça. Et puis en plus, on était quand même très frustrés de travailler avec des abeilles qui n'étaient pas forcément adaptées à notre territoire et à notre façon de travailler. D'où l'idée, il y a déjà 6 ans de ça, 6-7 ans, je ne sais plus exactement, on était 16 apiculteurs, 16 peut-être un petit peu plus au départ, mais aujourd'hui on est 16, un noyau de 16 apiculteurs, grâce à l'accompagnement de l'association de développement de l'apiculture Occitanie, pour justement travailler ensemble, à mettre en commun ce qu'on avait de bon dans nos fermes, dans nos structures apicoles, pour justement partir de là et faire de la sélection collective. Voilà. Donc l'idée, c'est de se passer d'achat de rennes extérieures et aussi de travailler sur des critères de sélection qui vont faire que l'abeille qu'on aura dans nos ruches sera adaptée à notre territoire et, on va dire, sera aussi satisfaisante en termes sanitaires, en termes de production. Voilà, l'abeille, entre guillemets, idéale. Voilà, donc c'est pas du tout des accords de libre-échange, au contraire, c'est même à peu près l'inverse.
Mais alors ça y est, elle existe cette abeille idéale?
Ben non, elle n'existera jamais, heureusement on ne maîtrisera pas tout, mais par contre on arrive déjà avec quelques années de recul à voir les progrès qu'on a tous fait dans nos fermes, et c'est pas miraculeux parce que ça demande beaucoup de travail, c'est un travail collectif. On a 200 ruches qu'on gère collectivement en plus de nos ruches à nous. On a une structure qui est basée dans l'Hérault, à Gignac. Et c'est sûr, ça fait du travail, mais on a fait énormément de progrès. Moi, personnellement, j'ai beaucoup progressé d'échanger avec mes collègues apiculteurs. Parce qu'en fait, il y a le in du festival et puis il y a toujours le off, il y a toujours la partie à côté. Et c'est les deux sont importants. On a fait un gros travail sur la sélection. On a aujourd'hui des abeilles qui sont quasiment plus malades dans nos ruches. Donc ça, c'est quand même chouette. On a vraiment fait un gros boulot sur le sanitaire. On a des ruches qui sont de plus en plus autonomes, même si on a encore du travail à faire. Autonomie en termes alimentation. Et voilà, bon, mais on a vraiment progressé. Moi, j'ai vu vraiment progresser ma structure grâce à ce travail collectif. Et en 3 ans, j'ai changé du tout au tout ce qu'il y avait dans mes ruches. Et c'était incroyable, quoi, le travail qui a été fait.
En tout cas, Hugo, il y a une notion importante qui a été soulevée ici, c'est que c'est par le collectif qu'on arrive à l'autonomie.
Ben nécessairement, ça s'observe sur les semences. Il y a des démarches un peu similaires autour des semences avec les réseaux semences paysannes. Ça s'observe autour du droit dans les années 80. Hein, les paysans et paysannes ont monté les associations qui s'appellent aujourd'hui Solidarité Paysan, les trucs comme ça pour reprendre possession de la question du droit, etc., etc. En fait, tous les sujets, on y arrive collectivement.
Ce matin, au sortir du premier plateau, un auditeur qui était là est venu nous voir en nous disant « Alors, c'est chouette, mais pour le coup, on a l'impression qu'on parle que à des gens qui sont conquis par cette notion. » Et en fait, bon, on parle aux convaincus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre alors que là, sur le papier, tout est bien? En fait, pourquoi ils sont où les... Pourquoi on n'y est pas?
Parce que c'est toujours plus difficile, ça demande du travail, ça demande aussi de sortir de sa coquille et de son confort, on va dire. Travailler avec d'autres, c'est pas toujours facile, ça demande de l'énergie supplémentaire, même si c'est toujours positif quand on a vécu le travail collectif. Moi, pour moi, c'est, ça reste toujours quelque chose de positif, mais ça demande un peu plus de travail. Donc forcément, il y a peut-être des gens aussi qui ont tellement la tête dans le guidon qu'ils n'arrivent pas à sortir le nez de la ferme, grosso modo. Et ça, c'est une condition. Sans ça, voilà, on ne peut pas savoir ce qui se passe dehors et ce qui se fait de bien ailleurs, quoi.
Siméon, oui, tu vas peut-être...
Oui, en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a tout un tas d'associations, de réseaux qui existent pour accompagner ces dynamiques collectives, pour pas justement que les paysans se retrouvent tout seuls face à ces questionnements, parce que le travail collectif, effectivement, c'est pas facile, mais quand il est accompagné, qu'il y a de l'animation, ça facilite grandement les choses.
Siméon, quand j'ai reçu le mail du plateau, parce que c'est Lucille qui m'a tout envoyé, que je remercie vraiment beaucoup pour vous avoir fait venir. Hein, parce que
j'aurais... Et on la remercie aussi pour le travail qu'elle a fait.
Elle m'a envoyé, donc Siméon, tu vas intervenir à deux titres, co-porte-parole de la Confédération, évidemment, mais elle m'a dit il vient aussi pour l'autonomie alimentaire de son troupeau. Ça veut dire quoi l'autonomie alimentaire? Parce que, excuse-moi, mais moi je suis un gars de la ville, tu vois, machin, Paris, tout ça. Ça mange de l'herbe.
Oui, et pas que, et même pas si souvent pour les miennes. Ça mange de l'herbe, ça mange des châtaignes, ça mange du genêt.
En fait, ça veut vraiment dire quoi là,
mais voilà, quand on élève des bêtes, le but de l'éleveur, c'est de bien nourrir ses bêtes, ne serait-ce que par respect pour son troupeau. Et puis, si on veut avoir des résultats intéressants en termes de production d'agneaux, il faut que les brebis soient ce qu'on appelle être en état le plus souvent possible, quoi. Voilà. Moi, quand je me suis installé, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais sous la main et ce que j'avais pas. Qu'est-ce que j'avais pas? J'avais pas de bâtiment, j'avais pas de terre labourable, j'avais très peu de prairies de fauche. Et qu'est-ce que j'avais? J'avais du temps et j'avais des espaces abandonnés autour de la maison. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de réussir à avoir cette autonomie. Alors, on n'est pas forcé d'avoir une autonomie alimentaire sur une ferme. On peut envisager d'acheter du foin, d'acheter des aliments concentrés pour nourrir ses bêtes. Mais le problème, c'est qu'on bouffe vite la marge de production avec ces achats-là. Du coup, moi, mon parti pris, ça a été de dire, je vais essayer d'élever un troupeau avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire du temps et de l'espace. Et j'ai réussi à avoir cette quasi-autonomie en gardant le troupeau dans des châtaigneraies et des chênaies qui sont abandonnées depuis des décennies. L'endroit où je me suis installé, ça manque pas d'espace, les éleveurs voisins sont assez éloignés, et du coup j'arrive à nourrir mes bêtes dans un système quasiment exclusivement pastoral, c'est-à-dire à manger de la végétation spontanée. Et vu que j'ai pas d'équipement, pas de parc fixe, vu aussi que les terrains abandonnés, j'ai pas forcément des statuts qui me permettent de m'investir dessus, j'ai pas de fermage dessus, je peux être mis à la porte du jour au lendemain, j'ai choisi de garder mon troupeau. Donc tout au long de l'année, je vais sortir mes bêtes, les amener là où il y a la nourriture, plutôt que de faire venir la nourriture au troupeau, j'amène le troupeau là où il y a de la nourriture. Et ça fonctionne. Alors, ça fonctionne, bon, premièrement parce que j'ai quand même de l'espace, même si les terrains sont pas très riches, il y a de la surface disponible. Et puis aussi parce que j'éduque mes bêtes à manger un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elles savent que le soir en rentrant à la bergerie, il y aura pas de foin. Premièrement parce que j'ai pas de foin. Deuxièmement parce que j'ai pas de bergerie. Donc, si elles veulent manger, va falloir qu'elles mangent ce qu'elles ont à l'endroit où je les amène.
C'est marrant, c'est comme ça que m'a élevé ma mère.
et du coup, j'arrive à nourrir mon troupeau. Donc tu parlais de l'herbe tout à l'heure, mais c'est aussi à base de châtaigne, à base de gland, à base de ronce, à base de genêt. Vraiment toute la végétation spontanée qu'il y a, à base de bruyère. Elles font pas les difficiles, elles apprennent à manger ça, elles apprennent à aimer ça, comme disait mon père et ma mère quand j'étais gamin. Manger un peu pour apprendre à aimer, ben là c'est exactement la même chose. Elles apprennent à manger ça et elles s'en sortent tout à fait. Ouais.
Je vais revenir sur une notion que tu as dit, c'est quasi autonomie, c'est-à-dire que c'est pas encore.
Je fais une petite entorse pendant la mise bas. Alors avant, je faisais une mise bas au mois de mai, quand il y avait de l'herbe dans les rares prés que j'ai, pour que quand les agneaux sont très jeunes, en fait, je peux pas me permettre de garder les mères avec leur agneau qui a 2-3 jours, parce qu'il va se coucher dans un coin, il va pas suivre, la mère va pas vouloir suivre le troupeau. Donc à cette période-là, c'est pas possible de garder pour moi. Je fais le choix de garder le reste du troupeau, les brebis qui ont pas mis bas, ou les agneaux qui ont déjà une dizaine de jours. Mais les très jeunes agneaux, je suis obligé de les mettre dans un parc. Donc c'est un parc mobile que je fais avec des filets électrifiés. Au mois de mai, c'était jouable parce que l'herbe était suffisamment haute, mais j'ai décidé d'avancer un petit peu mon agnelage pour que les agneaux soient plus grands lors de la montée en estive et qui s'en sortent mieux pendant l'été. Du coup, je fais mes mises bas au mois de mars et à cette période, l'herbe n'a pas encore poussé. Du coup, j'achète un peu de foin. Alors ça veut dire, là cette année, j'ai acheté 3 tonnes de foin. Pour se rendre compte de ce que ça donne vis-à-vis de mon troupeau, c'est l'équivalent de 5% de l'alimentation totale au cours d'une année. Donc voilà, je suis à 95% pastoral et à 5% alimentation distribuée. Et pour laquelle, effectivement, là, j'ai pas d'autonomie dessus, je peux pas le faire sur la ferme, je l'achète.
Muriel, c'est quoi les plus grosses difficultés, en fait, pour un paysan, une paysanne, aujourd'hui, de devenir autonome ?
Ah, une question. Je croyais que tu allais me parler d'apiculture. Là, j'aurais pu te répondre, mais là.
Bah, parle d'apiculture, parce qu'en fait.
Il y a, on va dire que depuis des décennies, depuis la création de la PAC, on a enlevé de l'autonomie aux paysans. Et je pense que à une époque, peut-être ça se justifiait ou ça s'expliquait, je dirais. Mais le problème, c'est que cette politique, on l'a continuée et on a servi les intérêts de l'agro-industrie et de l'agro-business plutôt que l'intérêt des paysans. Le paysan est devenu un maillon et un maillon qui ne décide plus de grand-chose et qui subit les choses. Et ça s'est instauré, on va dire, depuis la PAC. C'est à partir de là que ça a déraillé, on va dire. Et à aucun moment, la PAC n'a pris un autre virage et n'a pu infléchir cette direction-là. Il n'y a pas eu la volonté de rendre les paysans plus autonomes. Au contraire, on avait peut-être bien besoin de les tenir pieds et poings liés pour que justement on puisse orienter un peu la politique dans le sens où on voulait, sans que ça grogne de trop, quoi.
Et pourtant, ce matin, c'est pour l'instant impossible de se libérer de cette PAC.
Pour beaucoup, notamment pour les éleveurs, en Lozère, c'est impossible, ouais, tout à fait. On a fait en sorte que le prix de la viande ne reflète pas les coûts de production. Et d'ailleurs, c'est toute la bagarre qui est actuellement dans les états généraux de l'alimentation, elle tourne autour de ça. Et franchement, que ce soit le commerce ou l'industrie, ils n'ont pas lâché prise encore. Il ne faut pas rêver, ils ne lâcheront pas prise. Ils vont pas se mettre en péril pour que les paysans redeviennent autonomes.
Hugo, tu es d'accord avec ça ?
Ouais, carrément. Et moi, je pense que ça date d'avant la PAC. Ouais. Ça date des années 50. Ça date du moment où on décide de passer de 4 millions de paysans à 500 000. Ça a pris un peu de temps, en fait. Des années 40, il y a 4 millions de paysans. Des années 80, il y a 1 million de paysans. Aujourd'hui, il y en a moins de 500 000. Et en fait, ça, c'est un choix de société. C'est pas du tout. Donc, c'est à l'opposé de ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'est les efforts individuels des paysans et des paysannes ou des collectifs sur leur ferme. Ça, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Comme la responsabilité individuelle de toi ou moi d'aller acheter la nourriture qui est produite là-dedans. Ça, c'est un sujet en soi, avec où il y a de la morale dedans, il y a de la vertu, etc. Et après, il y a le sujet, si on dézoome et qu'on regarde l'ensemble du système alimentaire, on parle plus là de choix individuels. On parle de politique publique, dont la PAC n'est qu'un élément. Mais ce qu'a fait les politiques publiques, c'est volontairement chercher une efficacité, avec des gros guillemets, c'est-à-dire au sens quantité-prix. Et le fait, quand tu dis que la viande n'est pas à son coût de production, c'est une volonté politique. C'est pas une volonté commerciale des méchants industriels capitalistes qui, au demeurant, existent dans notre équation. Hein. Mais il faut rajouter, pour bien réfléchir, que et c'est là où ça devient un sujet de société, que le budget, la part consacrée à l'alimentation de chaque ménage a été divisé par 3 depuis les années 80. Je parle même pas des années 40. Hein. Je parle des années 80. Et tout ça a été remplacé par d'autres choses. Par du loyer, par de l'assurance, par du transport, par de l'énergie. Vous voyez, des sujets un peu d'actualité là. Et en fait, ça, c'est un choix politique. Pour le dire vite, nous on pense que les politiques publiques agricoles qui ont été mises ne sont en fait que des politiques privées industrielles. C'est-à-dire que le but du jeu a été de développer d'autres industries. En déportant du pouvoir d'achat des gens sur d'autres industries et en rendant le paysan et la paysanne juste un simple débouché pour une industrie de la semence, une industrie de l'abeille, une industrie de la machine, une industrie du pesticide et un simple fournisseur pour une industrie de la transformation agro-industrielle. Il n'y a plus de revenus sur les fermes. Donc c'est extrêmement difficile pour nous de juste agiter un drapeau de vertu et d'aller chercher un par un les gens qui sont en train de crever en fait sur leur ferme en leur disant c'est à cause de toi que tu empoisonnes le monde, etc. C'est à cause de toi qu'on n'arrive pas à atteindre l'autonomie, voilà. Si on fait ça, on contribue à aggraver ce qu'a fait l'industrie depuis 70 ans, c'est-à-dire une espèce de sécession, une espèce de fracturation de la société. Où ceux qui produisent la nourriture ne savent pas plus comment mange la population et les gens qui mangent ont une grande méconnaissance de comment est produite l'alimentation. Et donc, encore une fois, on a, l'exigence politique de devoir aller vers un projet politique qui fasse société autour des questions de l'alimentation. Voilà, et pas juste un projet commercial vertueux.
On va aller voir. François, tu voulais dire un mot.
Oui, ben du coup, ça, Hugo a commencé à dire un petit peu ce que je voulais souligner, c'est qu'effectivement la question politique, elle est immense, puisque comme tu l'as dit, dans les années 50, la politique, ça a été d'industrialiser l'agriculture, ce qui a provoqué en fait la perte d'autonomie générale des paysans. Et donc aujourd'hui, il y a à la fois une responsabilité individuelle de dire il faut qu'on retrouve cette autonomie. Donc c'est très bien que des paysans et des paysannes s'en emparent, mais ça suffira pas. Il faut, si on a été capable pendant plusieurs décennies de changer radicalement l'orientation agricole, aujourd'hui le défi c'est de faire l'inverse, c'est de mettre en place une politique qui va être radicalement différente et qui va nous conduire à retrouver justement cette part d'autonomie, et j'ai envie de dire de retrouver le sens paysan, parce que c'est quand même le paysan qui est maître de sa production, qui connaît ses terres, ses animaux et tout son savoir-faire en fait lui a été confisqué durant toutes ces dernières décennies quoi.
Ça paraît si simple sur le papier comme ça, en parler, on se dit ça va aller. Hein,
Ah non, ça paraît pas simple, parce que là, on est dans une situation où, faut quand même le dire, les projections de cette année, c'est un étudiant sur deux qui fera la queue à l'aide alimentaire au moins une fois dans l'année. C'est des millions de gens qui n'ont pas assez pour acheter la pire merde du capitalisme à pas cher, déjà pour pouvoir nourrir leur môme. Et du coup, on est obligé de regarder ça. Tout en, et c'est absolument nécessaire, continuant, parce que l'agriculture paysanne, ça sauve des vies. D'ailleurs, c'est pas un détail. C'est pas pour faire joli. C'est pas pour être une étagère de témoignages dans un océan capitaliste, quoi. Dans un supermarché capitaliste, vous voyez, ça sauve les vies de ceux qui le pratiquent. Déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, ça sauve aussi pas mal de choses autour de ceux qui arrivent à se fournir dans ces productions. Mais quand il y a des gilets jaunes dans la rue, quand il y a une menace sociale d'explosion dans tous les sens, que tout le monde n'en peut plus, qu'il y a une grande précarité montante, eh ben on a un problème. C'est que, en effet, ça a été souligné tout à l'heure, s'il fallait généraliser l'agroécologie paysanne, alors ça passerait par une nécessaire augmentation des coûts de production. Parce qu'en fait, des mains, du savoir-faire, du travail humain, ça doit coûter plus cher que des robots, des machines, des algorithmes, des chaînes de production, etc. Et ça, imaginez une manif de paysans et de paysannes qui disent on veut des prix plus chers, et puis en face il y a déjà des ronds-points bloqués avec des gens qui disent on n'a déjà pas assez de thunes pour manger, encore une fois, la pire merde du capitalisme. Donc à nous de nous atteler à ce défi hyper chouette, hein, et incroyable, de faire société ensemble sur ces questions-là, et pas juste des leçons de morale comme des fois on en entend.
Petite respiration, ça fait pas de mal, tu vois.
C'est pour la digestion.
Prenons le temps. On va parler d'un projet maintenant. Forcément, je vais te laisser la main, François, puisque l'abattoir mobile, il y a 5 ans que j'en entends parler. Toi, tu étais à l'ALODR quand tu as commencé à entendre parler de ce projet, à commencer à travailler sur ce projet. Voilà. C'était une idée un peu vague, un truc, un peu une espèce de rêve, 5 ans. Si tu veux, tu prends la main, puisque aujourd'hui, apparemment, le projet avance tout doucement.
Oui, Siméon complétera, parce que j'ai pas moi les éléments récents. Mais effectivement, donc, moi j'ai été amené dans le cadre de mon travail à l'ALODR à accompagner pendant plusieurs mois plusieurs éleveurs qui réfléchissaient donc sur la construction d'un outil d'abattage local mobile. Alors, l'abattoir mobile, c'est devenu après, parce qu'au départ, ils étaient plutôt avec l'envie d'avoir une petite structure fixe, un atelier de transformation. Mais pour revenir quand même au pourquoi de cette initiative, vous rappelez tous et toutes les vidéos qui avaient circulé sur les abattoirs, le mauvais traitement des animaux, notamment à Alès. L'abattoir a dû fermer pendant plusieurs mois, me semble-t-il. Et du coup, les éleveurs se sont retrouvés quand même en grande difficulté, particulièrement les petits éleveurs des Cévennes, parce que là, on parle en fait des éleveurs de petits ruminants qui ont eu des difficultés pour faire tuer leurs bêtes. Il fallait aller très loin, ça coûte cher. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on parle d'autonomie. Il faut savoir que les éleveurs, ils font le travail, donc ils sont là pour la naissance des animaux, ils les élèvent, et puis à la fin, en fait, sur la partie abattage, ils sont plus là. C'est-à-dire que c'est le dernier maillon de l'élevage pour lequel, en fait, ils n'ont pas d'accès. Parce que dans les abattoirs, on ne sait pas ce qui se passe. Et
j'irais même un peu plus loin. Certains des éleveurs qui étaient, qui sont à l'origine de ce projet, maîtrisent tout de la mise du bélier au troupeau jusqu'à la vente du pâté de rillettes d'agneau, la commercialisation, la transformation. Ils essaient de maîtriser tout, sauf une étape qui est quand même pas n'importe laquelle, la mise à mort de l'animal.
Qui est un stress pour l'animal absolument incroyable.
Alors, qui peut être un stress incroyable pour l'animal si c'est mal fait. Et François, tu parlais des vidéos tout à l'heure. Alors, beaucoup de gens ont été très choqués, à juste titre, d'une maltraitance animale dans ces vidéos-là. Moi, j'ai en tête aussi la vidéo qui était sortie sur l'abattoir du Vigan, où j'avais vu aussi une détresse sociale énorme de l'employé de l'abattoir qui n'arrivait pas à faire le boulot à cause d'un équipement qui n'était pas adapté, etc. Mmh. Et du coup, se dire qu'il y a des gens qui sont payés au SMIC 35 heures par semaine pour faire le sale boulot, moi, ça m'intéresse pas que mon activité rentre dans ce système-là non plus, quoi. Donc, l'idée, c'est que les paysans reprennent en main l'abattage premièrement pour le respect de leurs bêtes, mais aussi d'un point de vue social, que personne ne soit payé à faire ça toute la semaine durant, quoi.
Alors, ce projet d'abattoir mobile, c'est quoi et on en est où?
Donc c'est un abattoir, un projet d'abattoir paysan qui serait géré uniquement par des paysans, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de salariat dessus. C'est les éleveurs, alors on parle de tâcheronnage, les éleveurs qui seront éleveurs tâcherons, donc qui travailleront à la tâche pour faire tourner la chaîne d'abattage. Et autre volonté qu'on a eue, nous, sur notre projet, c'est de refuser de faire de la prestation de service, donc refuser d'abattre des animaux d'un autre éleveur qui participerait pas à l'abattoir, pour que tous les éleveurs qui amènent des bêtes à cet abattoir soient impliqués à un moment ou à un autre. Alors, c'est pas forcément mettre à mort leur animal, ça peut être ailleurs dans la chaîne, ça peut être faire de la maintenance de la machine, ça peut être faire des tâches administratives, mais en tout cas, on souhaite que les paysans s'impliquent dans cet outil-là. L'idée, donc au début, la réflexion était plus sur une petite structure fixe, mais on est passé assez rapidement sur une structure mobile dans un semi-remorque. Alors, un semi-remorque, ça va pas aller dans toutes les fermes des Cévennes, hein, on en est bien conscient. Mais l'idée, c'est que cette semi-remorque puisse se déplacer sur différents sites, et on a fléché des sites où il existe déjà des ateliers de découpe et de transformation de la viande. Parce que, en général, quand on va tuer une de ces bêtes à l'abattoir, c'est qu'on a aussi l'idée de la valoriser derrière, de la découper, de la vendre soi-même. Donc les trois sites qui ont été fléchés, c'est à côté de la Cuma Viande de Sainte-Croix-Vallée-Française, sur le secteur de Florac avec le CFPPA et la transfo viande qui est possible, et sur Saint-Julien-des-Points avec le nouvel atelier, alors qui pour l'instant n'a pas encore d'atelier viande qui tourne, mais où c'est en projet. Là, dans la remorque, il y aurait tout, enfin de l'étourdissement et le saignement de la bête jusqu'au contrôle vétérinaire in fine, quoi. Où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, on a travaillé avec Atelier Paysan sur la conception de cette remorque, de la remorque de nos rêves. On a demandé des devis qui étaient affreusement chers, et encore c'était des devis avant que la crise en Ukraine, l'inflation, etc. arrive, donc j'ose même pas imaginer à combien ça reviendrait aujourd'hui. Et là récemment, on a réussi à trouver d'occasion une remorque qui avait été équipée pour faire de l'abattage rituel pour l'Aïd. Alors c'est pas tout à fait l'équipement qu'on souhaitait à l'intérieur, mais on va le réadapter, et on a réussi à l'acheter d'occasion. Il y a encore un gros travail. Alors on l'a acheté sur nos deniers personnels, mais on souhaiterait qu'il y ait une structure qui porte tout le projet. Il y a des travaux à faire dedans pour être aux normes. Il y a tout un travail à faire avec les services vétérinaires de l'État pour avoir un agrément d'abattoir. Et puis un travail avec les collectivités locales pour trouver des emplacements, et puis fournir un certain nombre de matériel annexe, c'est-à-dire que toute la chaîne d'abattage se retrouve dans la semi-remorque, mais il nous manque les vestiaires et les chambres froides qui, elles, seront en fixe sur chaque site. Donc c'est seulement vestiaires et chambres froides qui vont être démultipliés par le nombre d'emplacements futurs de cet abattoir.
Ah, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, de un, il y a quand même aussi une volonté politique à ce que ce genre de projet avance, parce que quand vous recherchez des structures ou vraiment des gens pour aiguiller ce projet, c'est compliqué. Ou pour que vous puissiez vous poser sur une commune, il y a une volonté.
Il faut une volonté politique et très localement de la part de communes pour nous mettre à disposition un terrain. D'une façon un peu plus large, des communautés de communes qui ont la compétence économique. Nous, c'est sûr que sur nos petites structures, on n'a pas la capacité financière actuellement de mettre la mise de départ. Alors, on a On n'est pas encore sûr de la structure juridique finale. Est-ce que ce sera une CUMA, donc, ou est-ce que ce sera une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif.
Et une CUMA, c'est quoi ?
Coopérative d'utilisation du matériel agricole. Donc les CUMA, en général, ce sont des coopératives où il y a des moissonneuses-batteuses, des charrues, des tracteurs. Okay. Il peut y avoir, à Sainte-Croix-Vallée-Française, il y a une CUMA pour la transformation des produits carnés. Au col de Pin-des-Dix, il y a une CUMA pour l'épluchage et la transformation des châtaignes. Ça peut, c'est pas forcément du matériel tracté qui va être mis à disposition en CUMA. On sait pas encore, enfin on y travaille, on penche plutôt pour une structure de SIC. Dans laquelle les paysans seraient prêts à prendre des parts sociales, mais on attend aussi des collectivités locales qu'elles affirment leur volonté de soutenir ces filières locales et d'excellence en prenant aussi des parts sociales.
Moi, je trouve que cet exemple de travail sur l'abattoir mobile, il est très très intéressant parce que on part d'une réflexion de besoin individuel d'éleveurs. Mais tout ça s'ancre dans des questions sociétales et dans des questions aussi politiques. Au départ, ce groupe d'éleveurs, il a fallu quand même plusieurs réunions pour qu'il se constitue avec des personnes volontaires. Parce que tuer un animal, tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc il fallait aussi qu'il y ait des personnes qui aient envie de s'impliquer dans ces tâches-là. Et de petit à petit, le travail avançant, effectivement, il y a eu des contacts avec des collectivités locales, parce que les éleveurs eux-mêmes, pour financer cet outil, Siméon, tu l'as bien dit, c'est quand même très difficile, parce que c'est des coûts importants, donc il y a besoin de mutualiser tout ça. Et les collectivités, elles ont toute leur place là-dedans, parce que ça répond à un besoin du territoire. Les Cévennes, c'est très particulier, parce que c'est très difficile de s'y déplacer, il faut des outils adaptés. Et tout ça, ça répond justement à des besoins de sociétaux, parce que les consommateurs ont de plus en plus envie de consommer de la viande avec des animaux qui ont été bien traités, ça c'est vachement important. Et voilà, si on veut à l'avenir avoir tendre vers plus d'autonomie, puisque c'est la question qu'on traite aujourd'hui dans ce débat-là, il faut justement que tout aille dans ce sens-là. Et ces investissements, il faut qu'il y ait des politiques qui effectivement les poussent à ce qu'on avance beaucoup plus vite. Ça fait quand même 6 ans facilement
au moins, ouais.
que cette réflexion est lancée. Aujourd'hui, c'est toujours pas réalisé. Mmh. C'est long et je pense qu'il y a besoin quand même d'aller beaucoup plus vite aussi sur ces questions.
On glisse tout doucement vers la fin de ce plateau. Ce qu'il y a de dingue, c'est que les idées sont belles, tout va bien. Qui bloque ?
Moi, je prendrais les choses autrement. Je dirais.
C'est très bien. Moi, je pose la question et tu la prends comme tu veux.
Je pointerai autrement les choses. Je dirais que c'est incroyable que ça existe. En fait, ce qui est décrit là n'existe absolument nulle part autre sur d'autres sujets. Et à mon sens, c'est justifie de dire un truc qui paraît un peu lyrique, mais de dire un truc du genre les luttes paysannes éclairent le monde pour de vrai. La question de l'autonomie paysanne là et alimentaire là dont on parle sous plusieurs aspects, c'est pas juste pour produire de la nourriture. Y a derrière un truc qui vient questionner, c'est quoi la liberté ? C'est quoi la démocratie finalement ? C'est quoi, encore une fois, faire société ? Imaginez qu'on se pose les mêmes questions et surtout qu'on mette les mêmes moyens, parce que là, ce qui est décrit, là, c'est du travail, c'est de l'effort, c'est des moyens considérables. Imaginez qu'on fasse la même chose sur d'autres secteurs, parce que l'autonomie, c'est quoi ? L'autonomie, c'est choisir ses dépendances. C'est être en capacité collective de choisir ses dépendances. C'est pas justement d'en être délivré. Voilà. Une fois qu'on a posé ce truc-là, alors là, on a un truc qui concerne toute la société. Et finalement, le geste paysan doit être imité sur tous les sujets. Sinon, on sera condamné à ne plus être libre. Et du tout.
du tout, parce que déjà c'est pas beaucoup le cas. Mais ce que éclaire le monde, et donc en creux ça répond à ta question, ce qui bloque, bah, c'est le reste de la société. C'est que tout le reste de la société pédale dans l'autre sens, pédale dans le rêve qu'on va être délivré des saisons, qu'on va être délivré, qu'on va pouvoir voler de son lieu de boulot à son lieu de travail, qu'on va bientôt être délivré de la mort et qu'on va pouvoir vivre 300 ans. Enfin, vous voyez, toute cette utopie là, qu'on va pouvoir avoir des avatars dans un métaverse. Enfin, vous voyez. Et tout ça, ça nous rend moins libres, in fine, et du coup plus injustes, etc., etc. Donc en fait, c'est un gros sujet de société qui est proposé par la paysannerie depuis longtemps. Juste, il faut le redire. Et donc, il ne s'agit pas juste de manger des œufs bio, quoi. C'est derrière, c'est énorme. Ce qui se passe dans la paysannerie, ça ne devrait pas exister. En fait, ça devrait avoir disparu comme tout le reste de l'artisanat a disparu avec les révolutions industrielles successives. Ça demeure. Ça veut dire que c'est des batailles, qu'elles peuvent être gagnées, que ça ouvre un chemin incroyable. Là, le « en connaissance de cause » là, qui est décrit, là, c'est toutes ces années qu'il faut pour arriver à comprendre où je suis situé dans les rapports sociaux, comment ça marche, quels sont mes liens de dépendance, qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement sur le terrain pour s'en exonérer, etc. Bon, bah, ça, c'est des leçons faites au reste de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment d'effondrement où la question de l'alimentation, c'est-à-dire notre condition première de survie, manger, eh ben, ça peut être une chouette entrée dans ces questions de liberté.
Je parle d'effondrement, forcément, on va parler d'abeilles, parce qu'on nous répète depuis des années maintenant que sans abeilles, le monde s'arrêterait en 50 ans. C'est une image. Est-ce que tu as vu une évolution, toi, par rapport à l'utilisation des pesticides, etc. Est-ce que ta condition apicultrice s'est améliorée pour toi, tes collègues ? Et est-ce que justement on va vers le renouveau ou alors au contraire l'effondrement annoncé arrive ?
L'effondrement annoncé, je ne sais pas, mais par contre, oui, on voit les effets de l'environnement sur nos abeilles, bien sûr. On est aux premières loges quand on ouvre des ruches tous les jours, on voit ce qui se passe. Chaque année est une année différente, alors que quand je me suis installée, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, les années se suivaient, se ressemblaient quand même pas mal. Et puis là, d'un coup, c'est devenu tout en dents de scie. Alors oui, les pesticides, oui, mais surtout les changements climatiques aujourd'hui. Hein, on a fait reculer certaines molécules très dangereuses pour les abeilles, les néonicotinoïdes. C'est pas terminé, la bataille n'est jamais terminée, mais puis il faut accompagner les gens à changer leurs pratiques, parce que sans ça c'est pas la peine, on va pas, comme disait Hugo, ça sert à rien de se dresser les uns contre les autres, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Mais c'est surtout, moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est les changements climatiques. On n'a plus une année qui ressemble à une année entre guillemets normale, avec des extrêmes climatiques différents et variés chaque année, et c'est ça qui pose problème. L'abeille en peu de temps aura du mal à s'adapter à tout ça. Alors nous, au CETA, on a fait le choix et le pari de dire qu'on essaierait de trouver une abeille adaptée à notre territoire. Mais de là à ce qu'elle s'adapte à des changements climatiques aussi rapides, ça, on est à peu près convaincu que non, quoi. Pas très optimiste comme FEM, mais bon.
Non, mais dit autrement, il n'y a peut-être que ces démarches de l'agriculture paysanne, oui, qui nous permettront de survivre sur cette planète.
Ça, c'est sûr. Et de faire face et de rayer un peu les changements climatiques, ça, c'est certain aussi. Et ce qui se passe en agriculture, comme le dit Hugo, devrait être observé de près par tout le monde, parce que ça serait à transposer dans l'industrie, à transposer dans l'artisanat, dans le commerce, dans tous les domaines. En fait, il faudrait faire la même chose partout.
Oui. Voilà la réponse.
Dans les médias, tout ça.
Les petites radios.
On essaye tous les jours, hein, vraiment. Tu veux dire un mot de conclusion, François ?
Oui, je crois qu'il reste des sucreries sur le marché.
Il fait beau, auditeurs, auditrices, ici à Florac. Donc venez profiter de la fête paysanne. Venez à la rencontre des gens qui font cette terre si belle. Merci beaucoup. Hugo, tu es en conférence. C'est quoi, une conférence gesticulée dans...
Pas du tout. Conférence totalement immobile.
Ouais. Totalement immobile. Mais ça me va très bien. Du coup, au théâtre de Verdun.
On va reprendre ces sujets, mais sur un temps un peu plus long. Et puis avec des échanges avec des gens.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau.
Merci.
Muriel, Siméon, François.
Merci,
Hugo, à très bientôt. Prenez soin de vous. Je remercie vraiment du fond du cœur L'Encrier pour son accueil. Merci à toi, Marie-Hélène. Merci à toi, Véro, pour les moyens techniques. Merci à toutes et tous de nous suivre. Vous êtes bien sur Radio Bartas. Vive les paysans, vive les paysannes, vive la terre, ça fait du bien. Bonne journée et vive la fête paysanne à Florac.
le 15 octobre.
Dans toute la ville de Florac.
C'est la fête paysanne.
Marché de producteurs, conférences, rencontres, partage.
Cette année, on parle ensemble de l'autonomie paysanne.
Avec à 11h et 13h30, des plateaux Radio Bartas en direct de L'Encrier.
Bienvenue à toutes et tous dans toute la ville de Florac à la fête paysanne.